Bonjour et bienvenue à tous, et merci d'être fidèles à notre rendez-vous catholique du dimanche. Et bonjour à notre invité d'aujourd'hui, l'archevêque de Nouméa, Mgr Michel-Marie Calvé. Mgr, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes le pasteur de ce diocèse, souvent salué en tant que père évêque, mais vous faites partie aussi du Collège des évêques, collaborateur du pape, et à ce titre vous vous rendez régulièrement à Rome pour participer à des réunions. Votre plus récent déplacement était au mois de février. Pouvez-vous nous en parler et nous en donner les raisons ?
Alors, régulièrement à Rome, c'est peut-être beaucoup dire, mais en fait, je fais partie, oui, de la Congrégation pour le culte divin et la discipline des sacrements. C'est son nom complet. Cette congrégation qui est présidée par le cardinal Sara et ne s'était pas réunie depuis pas mal de temps. Ma dernière participation à ces travaux avait été un symposium avec l'Université du Latran et cette congrégation qui, on m'avait demandé de traiter en 90 minutes de l'inculturation. Ça m'avait demandé un certain travail et c'était extrêmement intéressant. Et voilà que cette fois-ci, c'était une réunion plénière de la congrégation. Là aussi, ça n'avait pas eu lieu depuis pas mal de temps et c'était une bonne chose. J'étais content de retrouver les membres de la congrégation, je connaissais le cardinal Sara depuis longtemps, également les officiels de la congrégation, dont le secrétaire, qui est l'ancien archevêque de Birmingham, en Angleterre, et d'autres membres de cette congrégation, dont le cardinal Ricard, archevêque de Bordeaux, en France, dont le cardinal Lacroix de Québec, au Canada, et encore beaucoup d'autres, quelques membres nouveaux avec qui j'ai eu la joie de faire connaissance. Et ça a été l'occasion de traiter. La congrégation, en fait, hésitait sur le travail à nous confier en tant que réunion plénière, plénaria, comme on dit à Rome. Est-ce qu'il fallait prévoir un nouveau directoire adressé aux évêques et tout ça ? Et quand nous nous sommes rassemblés en petits groupes, de groupes linguistiques, un groupe en langue française, un groupe en anglais, un groupe en espagnol, un autre groupe en italien, nous étions au total 60 ou 70, eh bien, finalement, tous les groupes sont arrivés aux mêmes conclusions que ce qui était souhaitable dans la situation présente dans l'Église, ça n'était pas un énième directoire, c'était pas un document aux évêques, qui en reçoivent déjà beaucoup, mais c'était un document qui serait adressé à l'ensemble de tous les utilisateurs et les participants de la liturgie, c'est-à-dire en fait tous les chrétiens, tous les baptisés. Et la liturgie de droit, bien sûr, leur appartient, comme avait rappelé le Concile Vatican II, et comment cette liturgie aujourd'hui peut être plus vivante, plus effective, et puis aussi pouvoir être proposée dans des situations qui sont quelquefois un peu, disons, non prévues par les situations habituelles auxquelles s'adressent les documents romains. Par exemple, j'ai insisté sur le fait que dans nos diocèses des îles du Pacifique, bien souvent, des communautés chrétiennes n'avaient pas de manière fréquente les services d'un prêtre, les services d'un diacre, mais qu'il fallait aussi voir la situation quand le service de la communauté était assuré par un catéchiste ou un animateur. Parce que même s'il n'y a pas de prêtre ou de diacre, eh bien la vie chrétienne continue et donc il s'agit de donner à la communauté des conseils, des recommandations et des moyens qui lui permettront de célébrer une liturgie qui soit la meilleure possible.
Oui, en effet, lorsque vous parlez de ces communautés du Pacifique, on ne peut s'empêcher de penser au livre du Père Delbos, « Nous mourons de te voir », cette île qui a continué à pratiquer la liturgie en l'absence de prêtres ou de diacres.
Pour moi, il y a un point de référence qui est encore plus extraordinaire, peut-être que celui-là, c'est la situation des communautés qui, au Japon, se sont retrouvés, après une première évangélisation, coupés complètement de l'extérieur, pour des raisons politiques, économiques, bon, qui ont leur consistance par ailleurs. Mais les premières communautés catholiques se sont retrouvées donc sans ministre ordonné, sans prêtre, sans diacre, sans évêque, pour des années. Et quand je dis des années, c'est de l'ordre de 150 ans. Et pourtant, ces communautés sont restées des communautés chrétiennes, continuant à célébrer le Seigneur, continuant à transmettre l'Écriture, à transmettre l'enseignement de la catéchèse, continuant à vivre la charité, bien sûr, continuant à vivre le service. Autrement dit, tous les éléments de ce qui constitue une communauté chrétienne étaient là, et pourtant, dans la situation où ils étaient, eh bien, la pratique habituelle avec les sacrements n'était pas accessible. Ça ne veut pas dire qu'ils étaient laissés de côté par Dieu.
Alors, au cours de ces travaux, est-ce que vous êtes parvenu à des conclusions ou à émettre un document ?
Alors, on n'a pas émis de document, parce que dans un groupe comme ça, qui est de 70 personnes à peu près, qui viennent de toutes les parties du monde, ce qui était important, c'était de dire peut-être ce qu'on voulait et ce qu'on ne voulait pas. Et je crois que nous l'avons dit de manière assez clairement, de sorte que les officiels de la congrégation, en plus, il y avait eu quelques, peut-être, incompréhensions. On se rappelle de la durée peut-être excessive qui a été mise pour obtenir et faire approuver les traductions dans les différentes langues. Traduction du missel, par exemple. Et actuellement, on a une traduction du missel en langue française qui était un petit peu en panne. Et les membres de la congrégation, croyant bien faire, eh bien, discutaient pied à pied sur chaque mot. Heureusement, le pape François, au courant de l'année dernière, a rappelé à la congrégation et à son préfet, le cardinal Sarah, gentiment mais fermement, par deux fois, que c'était, selon les textes du Concile Vatican II, les conférences épiscopales qui avaient la responsabilité de faire les traductions dans les différentes langues, et que la congrégation avait simplement un rôle de vérifier que tout était fait correctement, mais pas de reprendre le travail à la base. Et je crois que ce message a été compris, si bien que nous pouvons envisager d'avoir prochainement la traduction du missel d'autel en langue française, de la version la plus récente du missel romain en latin, et qui était attendue depuis des années. On espère que dans le courant de l'année, elle va être disponible. Ce sera un soulagement pour beaucoup. Et d'autres traductions sont en cours de préparation et donc vont bénéficier aussi de cette nouvelle manière de faire. Je pense aux traductions en espagnol et en italien.
Alors avant de nous séparer, je voudrais aborder un problème un petit peu, peut-être, dont on parle beaucoup en ce moment. On sait qu'au cours de toute son histoire, l'Église a traversé des zones de turbulence et que l'Esprit-Saint l'a aidé à les surmonter. On nous dit fréquemment qu'il nous faut aimer l'Église, dont nous faisons partie tous en tant que pierre vivante. Alors qu'aimeriez-vous dire sur ce sujet à nos auditeurs ?
Alors l'Église est à la fois spirituellement, eh bien elle est auprès de Dieu, mais aussi humainement, elle est dans la pâte humaine avec toute sa lourdeur et éventuellement avec toute sa faiblesse. Et justement, étant à Rome pour cette réunion de la congrégation, eh bien, j'ai vu que se préparait sur place une autre réunion dont les médias ont beaucoup parlé, que le pape avait convoquée plus récemment, puisque la réunion a été convoquée quelques mois avant, alors que la réunion de la congrégation dont je faisais partie, elle avait été convoquée une année avant. Mais cette réunion est très importante puisque c'était l'ensemble des présidents des conférences épiscopales. Donc pour notre conférence épiscopale, la CEPAC, c'était l'évêque de Rarotonga, des îles Cook, Mgr Paul Donohue, qui représentait notre région. Et c'était la semaine suivante de la réunion à laquelle moi j'ai participé. Les médias et le service du Vatican ont largement fait écho à cette réunion, et ce qui en ressort, eh bien, c'est tolérance zéro en matière de tout ce qui est maltraitance, manque de respect, en particulier aux enfants, ce qui est particulièrement scandaleux.
Monseigneur, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et merci à vous, amis auditeurs, d'être fidèles à notre rendez-vous. Je vous rappelle que vous pourrez suivre dans quelques instants, à 9h et très exactement, la messe radio depuis la cathédrale de Nouméa. Nous vous souhaitons une très bonne semaine et vous donnons rendez-vous dimanche prochain.